Europe Soir, Raphaël Delvolvé.
Dans quelques instants, nous parlons de la réforme des retraites. Le texte est arrivé à l'Assemblée nationale aujourd'hui. Il y a cette grande journée de mobilisation demain. Appelez-nous au 3921 pour réagir. En attendant, revenons sur cette information aujourd'hui. Le monde entier est au chevet de la Turquie et de la Syrie. L'une et l'autre frappées par un tremblement de terre extrêmement puissant la nuit dernière, magnitude 7,8. Puis une très forte réplique quelques heures plus tard. C'est un désastre. Plus de 2600 morts au dernier bilan, des milliers d'immeubles réduits en miettes. Nous allons essayer de mieux comprendre ce qu'il s'est passé avec un sismologue, Rémi Bossu, responsable du Centre de sismologie euro-méditerranéen, est avec nous. Bonsoir, monsieur.
Bonsoir.
Alors, le sud-est de la Turquie, le nord de la Syrie, ce sont des zones dites de forte activité sismique. C'était prévisible, mais difficile à anticiper, ces événements.
Tout à fait. C'est-à-dire qu'on sait très bien qu'on est dans une zone où on a historiquement des forts séismes. Ça faisait, par contre, on est incapable de dire quand le prochain séisme va se produire. Donc là, on a eu un séisme de magnitude 7,8 la nuit dernière. Donc la nuit, c'est le pire moment pour les séismes, puisque les gens sont couchés dans les habitations. Et il faut toujours se rappeler que ce n'est pas les séismes qui tuent, mais c'est les bâtiments en s'effondrant qui tuent. Alors la nuit, vous avez beaucoup de gens dans les bâtiments, donc vous avez un nombre de morts qui augmente. Et en magnitude 7,8, c'est vraiment quelque chose de très important. Pour vous donner une idée, la rupture, donc la faille, a glissé sur 200 km de long. Donc c'est vraiment quelque chose de très important. Il a secoué à Gaziantep, donc la grande ville à côté. Les gens expliquent qu'ils ont été secoués violemment pendant 1 à 2 minutes. Une éternité, tout à fait.
Et pourquoi on a ressenti les vibrations, les tremblements de terre jusqu'au Groenland, c'est ce qui est écrit dans toutes les dépêches? C'est excessif?
Oui, je pense que c'est très excessif. On collecte donc les témoignages des témoins sur nos applications, etc. On a des témoignages à plus de 1000 km. Oui, on a ça a été ressenti jusqu'au Caire, ça a été ressenti dans l'ouest de la Turquie, légèrement en Grèce. Mais après, c'est vraiment fait... anecdotique, mais c'est pas ressenti jusqu'au Groenland.
Voilà, on a sorti une activité sismique, mais ce qui veut pas dire que la Terre a tremblé au Groenland aujourd'hui. C'était important de le dire, parce que pour beaucoup de gens, on a l'impression que la Terre a tremblé un peu partout.
On le moniteur partout, c'est-à-dire que les sismomètres l'enregistrent bien entendu tout autour du monde, mais pas les gens. On n'a pas une sensibilité suffisante pour le ressentir à plusieurs milliers de kilomètres.
Le sismologue Rémi Bossu est avec nous ce soir sur Europe 1. Vous parliez des dégâts matériels très importants, c'est ce qui tue le plus. Comment expliquer ces images impressionnantes, notamment qui nous viennent de la région de Gaziantep en Turquie, ces immeubles qui s'effondrent comme des châteaux de cartes? Les constructions sont faites pas forcément à la va-vite, mais en béton et en briques dans ces régions. Pourquoi ces pays qui sont conscients d'être sur une plaque sismique ne s'adaptent pas, ou du moins ont du mal à le faire? C'est un déficit d'ingénierie, un problème économique. Empêcher un tel bilan, en fait?
Alors, d'abord, empêcher un tel bilan, c'est une politique sur le long terme, puisque c'est construire des bâtiments qui résistent, donc qui respectent les normes sismiques. Donc, même si vous le décidez aujourd'hui, un bâtiment a une durée de vie de plus de 50 ans, il faudra au moins 50 ans pour avoir un effet. Donc déjà, on a ce problème-là, c'est que tout ce qui est ancien n'est pas soumis, quand il nous a été construit, n'avait pas à appliquer de normes parasismiques. Deuxième problème, et ça on l'a tous vu, nous, dans les années 70, chez nous, on a construit, il y avait une crise du logement, on a construit très très vite, on n'a pas construit des bâtiments de très bonne qualité. La Turquie a connu aussi un exode rural très violent. Je ne suis pas sûr que ça ait été la première priorité à ce moment-là. Et après, dernier point, et ça c'est un point que malheureusement on voit à tous les séismes, même quand les normes existent, on voit qu'elles ne sont pas toujours appliquées, et ça on le voit au moment des séismes. C'est-à-dire quand vous voyez, il y a des images là-dessus, des bâtiments qui semblent récents, qui s'effondrent vraiment qui s'effondrent totalement, on peut se demander si les normes ont été réellement appliquées, si les constructeurs n'ont pas cherché simplement à économiser sur les frais de construction.
Merci beaucoup Rémi Bossu de nous avoir éclairé ce soir. Je rappelle que vous êtes responsable du Centre sismologique euro-méditerranéen. Dans quelques instants, nous parlons de l'actualité politique, la réforme des retraites. Le texte est arrivé à l'Assemblée nationale. Demain, nouvelle journée de mobilisation, la troisième. À tout de suite.
Europe Soir, Raphaël Delvolvé.
Je vous rappelle le numéro du Standard d'Europe 1, le 3921, pour réagir en direct à l'émission. On va parler de la réforme des retraites. Désormais, comme on pouvait le prévoir, l'Assemblée nationale était en ébullition cet après-midi pour le coup d'envoi de l'examen de la réforme des retraites, du brouhaha, des rappels au règlement, des suspensions de séance, des oppositions qui se tirent dessus, une majorité qui tire sur ses oppositions. Bref, la classe politique n'en ressort pas forcément grandie et ça n'est que le début. La députée Les Républicains, Anne-Laure Blin, est avec nous ce soir. Bonsoir Madame la députée.
Bonsoir.
Gérard Mardinet, secrétaire général CFE-CGC, est aussi avec nous, car nous sommes à la veille d'une troisième grande mobilisation intersyndicale contre cette réforme. Bonsoir.
Bonsoir.
Madame Blin, je commence par vous. Votre impression déjà, cette ambiance un peu pénible pour tout le monde à l'Assemblée aujourd'hui, c'est la faute à qui ?
Ben, je suis bien d'accord, c'est complètement pénible, étant donné qu'à la première journée, ça crie dans tous les sens, suspension, rappel au règlement, c'est vraiment triste d'en arriver là, parce que on est dans l'hémicycle pour débattre. Et je crois que même si nous ne partageons pas toujours les mêmes idées, il faut que nous puissions poser les choses de manière calme et posée, et que nous puissions avancer chacun nos arguments. Sauf que depuis le début de l'après-midi, eh ben, on est absolument en incapacité de poser des arguments. Donc je crains que les 15 jours à venir risquent d'être sur la même teneur, et ça va être très difficile de tenir, mais les Républicains, et dont je suis, tiendront et seront là pendant toutes les heures de débat, parce que ce qui compte avant tout, c'est de faire évoluer le texte qui, aujourd'hui, n'est pas convenable et qu'il convient d'améliorer. Et donc, nous avons un certain nombre de propositions à mettre sur la table.
Et on en reparle dans quelques instants avec nos auditeurs qui nous appellent au 3921, Gérard Mardinet. Votre impression à vous aussi. Alors, les syndicats, évidemment, comptent bien régler le problème de la réforme des retraites dans la rue. Mais quand vous voyez ce spectacle, ça vous inspire quelque chose? Ça vous renforce votre motivation à mobiliser?
Bien sûr, parce que tous les gens qu'on mobilise dans la rue, ils ont compris l'argumentaire pourquoi cette réforme n'est pas utile et n'est pas justifiée finalement. On l'a expliqué en long, en large, il n'y a pas de problème de financement de notre système de retraite. Donc ça, ils ont bien compris. Et nous, on est désolé de voir que le gouvernement, en ayant organisé un simulacre de concertation à l'automne, eh bien finalement, fragilise notre démocratie. Ça se traduit y compris par un débat parlementaire qui ne se passe pas probablement dans de bonnes conditions. Moi, je l'ai vu, par une parenthèse, lors de l'audition qu'on a eue il y a une quinzaine de jours par la commission des affaires sociales, finalement, où certains députés de la majorité vous font des remarques très déplacées alors qu'on leur expose des arguments de fond, en particulier un qui est primordial. L'espérance de vie n'augmente plus, une note de l'INSEE l'a confirmé. Monsieur Bras, qui est un grand spécialiste de l'Institut National d'Études Démographiques, l'a redit, les hypothèses de croissance de l'espérance de vie sont fausses. Et ça jouerait sur quasiment 50 milliards sur les 10 ans qui viennent, si vous voulez. Donc, il faut revenir aux arguments de fond.
Le chaos à l'Assemblée, c'est la majorité, ce ne sont pas les oppositions qui ne sont pas à la hauteur des combats que vous portez.
Moi, je ne fais pas de commentaires sur les travaux parlementaires. Moi, je dis que sur le fond, c'est le gouvernement qui a...
Vous pourriez espérer de la part des oppositions qu'elles mènent une opposition constructive pour faire avancer le projet, notamment ce que vous demandez, le retrait de la réforme à 64 ans.
Oui, mais je pense que...
Beaucoup de syndicalistes l'ont dit.
Ça devrait venir, quand même. Ça devrait venir.
Alors, le ministre du Travail, qui a réussi à s'exprimer tout à l'heure, Olivier Dussopt, le dit, le gouvernement reste ouvert aux améliorations de la réforme. Vous allez pousser pourquoi, Anne-Laure Blin? Vous l'avez dit en introduction, vous avez des choses à dire. Mais la Première ministre a fait une concession importante ce week-end en offrant la possibilité de partir à 64 ans pour les carrières longues. Alors, précisément, c'est ceux qui ont cumulé 63 ans, pardon, et plus précisément, c'est ceux qui ont cumulé au moins 5 trimestres avant d'avoir 21 ans. Vous allez demander quoi pendant le débat, Anne-Laure Blin ?
Je voudrais simplement revenir sur ce que le responsable syndical a évoqué tout à l'heure. Monsieur Mardinet, tout à fait. Aujourd'hui, on assiste à un déni de démocratie au Parlement parce que l'extrême gauche, et la NUPES en particulier, est un allié de la majorité. Aujourd'hui, on est face à 20 000 amendements, dont 18 000 qui ont été déposés par l'ensemble des groupes composés de la NUPES, qui vont empêcher la teneur des débats. Donc, c'est-à-dire que la semaine dernière, on n'a pas pu examiner l'ensemble des dispositifs contenus dans le texte proposé par le gouvernement, et que là, nous avons entamé 15 jours de débat, et que nous n'arriverons très clairement pas à aller jusqu'au bout de l'examen du texte. Alors que, il est clair que la copie du gouvernement est à revoir. Donc, plutôt que de jouer sur le droit d'amendement, qui est un droit d'amendement constitutionnel, et je ne le nie pas du tout, mais il faut avancer sur les propositions qu'ils doivent être votées et qu'on peut faire adopter au cours du débat parlementaire, notamment sur la question des carrières longues. Et vous l'avez dit, la Première ministre est revenue parce que les Républicains sont au travail depuis le mois de décembre, à la présentation du projet, pour faire évoluer ce texte, parce que par-dessus tout, ce que nous voulons dans ce texte, c'est deux choses. Que le gouvernement prenne en compte la question et le sens du travail, qui n'est aujourd'hui pas suffisamment valorisé. Et c'est donc grâce à nos propositions de meilleure prise en compte des carrières longues, notamment avant 21 ans, pour l'ensemble des Français qui auront commencé à travailler tôt, qui auront déjà validé des trimestres, partir avant l'âge de départ qui sera fixé, et donc, c'est-à-dire faire prévaloir les annuités sur l'âge de départ. Et un autre élément qui n'est absolument pas évoqué dans la réforme du gouvernement et sur lequel il faut absolument faire bouger les lignes, c'est la politique de natalité, la politique familiale. Ah. Aujourd'hui, rien n'est proposé dans le texte du gouvernement. Il faut que l'on touche aux quotients familiales qui a été rabaissé par 10 ans de politique de gauche. Il faut qu'on rétablisse l'universalité des allocations familiales. Il faut qu'on améliore le dispositif de prise en charge de la garde des enfants. Il faut véritablement que l'on prenne en compte les congés maternité, les congés parentaux, parce que c'est indéniable. Si l'on veut sauver notre système par répartition, il faut que nous ayons des actifs. Et donc ça passe par une démographie, par notre démographie et par une augmentation de la natalité française. Et aujourd'hui, ce sont deux écueils que le gouvernement, dans lequel le gouvernement
s'est trompé, selon vous, dans la réforme des retraites.
Absolument pas.
Alors, on va donner la parole à nos auditeurs, si ça vous embête pas, Madame la députée. Jean-Luc nous appelle au 3921. Bonsoir, Jean-Luc.
Oui, bonsoir. Merci de prendre mon appel.
Mais nous vous écoutons.
Bah écoutez, moi, je n'ai jamais fait manifester depuis 95. Et avant 86 avec la loi de Hackey, mais là, vu ce qui se passe, sincèrement, je vais manifester à toutes les manifestations. Je trouve scandaleuse que cette réforme vienne enlever 2 années de retraite aux Français. C'est une véritable escroquerie financière. Aujourd'hui, malheureusement, on a affaire à des gens qui racontent n'importe quoi auprès des médias. La problématique des retraites aujourd'hui, c'est une problématique de recettes. Nous avons un véritable scandale, c'est que les exonérations qui se montent à des dizaines de milliards d'euros depuis des années pour gaver un certain nombre de grands groupes financiers qui versent des milliards de dividendes, eh ben, on ne compense pas correctement les cotisations qu'on pique sur les contributions patronales et salariales des régimes de retraite. Donc, il faut arrêter aujourd'hui de dire n'importe quoi aux Français. Les régimes sont financés, sauf qu'il y a une loi en 2019, hein, merci Monsieur Macron, qui a permis à l'État de ne plus compenser les cotisations des exonérations. Ça fait 6 milliards par an. En 2023, ça fait 24 milliards et aujourd'hui, on veut bien faire suer les Français pour 2 ans pour 12 milliards à tendance 2030 à 20 milliards. L'argent est là, il faut arrêter de le piquer dans les fiches de paye des Français, il faut le rendre aux caisses CNAM et de retraite complémentaire et on n'aura pas de problème avec le financement des retraites.
Alors, voilà les concessions de la Première ministre au parti Les Républicains, donc sur les carrières longues, ça vous paraît pas aller dans le bon sens, Jean-Luc ?
Mais si, ça va dans le bon sens, mais c'est quelque chose, c'est un miroir aux alouettes. Les gens vont passer effectivement à 21 ans avec 5 trimestres ou 4 trimestres si des fois ils sont nés effectivement en fin d'année, mais qui va avoir les trimestres Touraines pour pouvoir partir à l'âge d'une carrière longue ? Personne, nada, avec la problématique des carrières hachées. Hein. Donc, c'était 62 ans et vous avez le droit de partir à 60. Demain, ça sera 64, vous aurez le droit de partir à 62 ans. Vous rajoutez l'accélération de la loi de Touraine et vous avez des millions de Français, enfin des milliers de Français, des dizaines de milliers de Français qui ont droit aux carrières longues, qui vont se faire en papaouter. C'est des simples histoires de maths.
Alors, Jean-Luc, si j'ai bien compris. Vous serez dans la rue demain, hein?
Mais bien sûr, moi ça fait 30 ans que je vends des contrats d'assurance, d'épargne collective dans les entreprises. Aujourd'hui, les lois, la loi de finances, on a déjà les fonds de pension à la française avec la loi Pacte, la loi Macron. Hein, c'est un véritable scandale. On est en train de piéger les Français avec des fonds de pension de capitalisation, qui fait qu'aujourd'hui, avec une inflation qui était à zéro, qui remonte aujourd'hui, et bien on se retrouve effectivement avec des règles prudentielles telles que les gens ont des rendements de merde sur leur contrat d'assurance par capitalisation.
Merci Jean-Luc, j'ai bien compris que vous faites partie de ces Français qui ont bien compris la réforme des retraites telle que présentée. Hein. C'est très technique, Jean-Luc connaît parfaitement le sujet. Ouais. Gérard Mardinet, sur les carrières longues, non, il n'y a pas moyen de toper avec le gouvernement, là. Ça ne vous va pas cette concession accordée au Parti des Républicains? C'est vrai que c'est LR qui demande ça.
Hein. Oui, mais c'est absolument pas. La réforme des retraites est une réforme sociétale, en fait. Ce n'est pas une réforme comptable budgétaire comme le présente le gouvernement. Et l'augmentation de l'âge de départ de 2 ans, combinée à une accélération de la loi Touraine, eh bien c'est le gouvernement qui impose une punition collective à tous les Français, en fait. Et il essaye de discuter, ah ben oui, mais il y en a peut-être quelques-uns qui resteront au coin moins longtemps que les autres, mais ça sera toujours une poignée. Et nous, on dit, il faut reprendre le sujet à la base avec une vision globale et de dire, non, où passent les ressources de notre économie? Et notre économie a toutes les ressources nécessaires pour financer nos retraites. Vous avez vu qu'en 2022, 80 milliards de dividendes et de rachats d'actions ont été dépensés, si j'ose dire, par les sociétés du CAC 40. Eh bien non, un peu de cet argent devrait servir à financer les retraites, sachant que tout cet argent qu'il donnait, eh ben, il n'est pas investi et il ne crée pas des emplois et donc de la masse salariale.
Si comme Jean-Luc, vous voulez échanger avec Gérard Mardinet et Anne-Laure Blin, la députée LR du Maine-et-Loire, vous nous appelez au 3921. Anne-Laure Blin, on l'a entendu avec Jean-Luc, hein, notre auditeur, la détermination de la rue est toujours très forte à la veille, dont on le rappelle, d'une troisième mobilisation intersyndicale. Les deux premières ont rassemblé au moins plus d'un million de personnes. LR joue aussi sa survie là.
Non mais j'entends bien et nous n'avons pas la prétention de penser que cette réforme est une réforme populaire. La première chose que nous défendons, parce que nous y croyons et je crois que c'est un système juste, c'est qu'il faut défendre ce système par répartition. Parce que je crois profondément que ce système par répartition est un symbole, est un signe d'unité nationale. C'est-à-dire que des jeunes générations paient les retraites de nos aînés. Et ça, c'est fondamental pour avoir un ciment d'unité nationale. Parce que aujourd'hui, si vous cassez ce système, vous rentrez dans un système d'individualité et individualiste. Sauf que, et on va pas rentrer dans une guerre de chiffres, on voit bien plusieurs choses. C'est qu'on paie le poids des réformes qui ont été celles de la gauche et de l'extrême gauche, notamment menée par François Mitterrand, avec, dès son arrivée au pouvoir, de la mise en place de la réforme à 60 ans. Mmh. Vous avez ensuite les 35 heures qui ont été mises en place. Donc nécessairement, depuis plusieurs années, nous travaillons de moins en moins. Ce qui dit de moins en moins travailler, dit de moins en moins cotiser. Parallèlement, et donc ça fera écho à ce que moi je veux porter dans ce débat, notamment la question de la natalité, la question de la politique familiale, on a de moins en moins d'actifs qui paient les retraites de nos aînés. Hier, nous avions à peu près 4 actifs pour un retraité. Aujourd'hui, nous sommes à 1,5, 1,8 actifs pour un retraité. Donc on voit bien que ce n'est pas tenable. Sauf que ce système, il faut, pour le pérenniser, faire des réformes. Une réforme en profondeur. Donc c'est ce que nous essayons de mettre dans le débat pour justement garantir un équilibre et une justesse. Mais ce qu'il faut aussi
c'est
bien
difficile
se dire,
à lire, hein,
c'est
la position du Parti des Républicains, Anne-Laure Blin. Hein.
Ah bah non, c'est très clair. Bah, nous, ce qu'on veut, c'est valoriser le travail, parce que nous sommes un pays qui de moins en moins travaille. Donc il faut oser affirmer que pour payer tout un système d'aide sociale, tout un système de retraite, il faut travailler. Mmh. Et le travail, aujourd'hui, c'est pas ce qui est défendu, mais par la gauche et l'extrême gauche, de droit à la paresse. Nous ne croyons pas aux Républicains, à ce droit à la paresse, à ce ministère du temps libre qui avait été mis en place par Mitterrand. Nous croyons en ce sens noble de la valeur travail qui crée des richesses et qui crée ensuite suffisamment de richesses pour abonder tout un système d'aide sociale. Là, on parle du système de retraite, mais on parle aussi d'un système de solidarité envers nos personnes handicapées, comme aujourd'hui nos aînés. Mais sauf on dit qu'effectivement on doit moins en moins travailler, c'est problématique.
Anne-Laure Blin, la députée Les Républicains du Maine-et-Loire, est avec nous ce soir sur Europe 1. On marque une pause et on reprend notre conversation. A tout de suite, appelez-nous au 3921.
Europe Soir, Raphaël Delvolvé.
De retour sur Europe 1, nous sommes avec Anne-Laure Blin, députée Les Républicains du Maine-et-Loire. Elle est sortie de l'hémicycle pour nous parler ce soir sur Europe 1, également avec Gérard Mardinet, le monsieur retraite de la CFE-CGC qui appelle demain à se mobiliser une troisième fois depuis le 19 janvier dernier contre la réforme des retraites. Vous n'aimez pas l'argument d'Anne-Laure Blin selon lequel, en fait, il n'y a plus assez de cotisants pour suffisamment de retraités.
Ben non, bien sûr, parce que ce ratio actif sur retraité, c'est une variable, mais c'est loin d'être la seule. Et en particulier, tous les gains de productivité qui ont été faits par notre économie ont été finalement restitués aux bénéfices des entreprises qui se retrouvent chez les actionnaires, si vous voulez. Et donc, qui ne sont pas réinvestis, qui ne créent pas de l'emploi en France. En plus, vous avez des phénomènes déstructurants comme celui des travailleurs des plateformes qui ne cotisent pas beaucoup au système de retraite et qui, demain, seront rattrapés par la solidarité pour se faire payer une retraite. Donc, absolument pas. C'est la répartition des richesses créées par notre économie qu'il faut revoir.
Et quand Anne-Laure Blin, pas seulement LR de façon générale, il suffisait de lire Olivier Marleix ce matin dans les colonnes du Figaro, parle de relancer la natalité, ça vous parle pas non plus ?
Je pense que effectivement aujourd'hui il y a plusieurs facteurs qui pénalisent la natalité en France, et en particulier des conditions de précarité pour beaucoup de jeunes qui ont du mal à se construire un projet de vie, et ça faut clairement le revoir. Et puis l'éco-anxiété, et nous on pense que beaucoup de jeunes sont anxieux vis-à-vis à la problématique de changement climatique à venir, et probablement avec raison, et donc le gouvernement ferait bien mieux de s'attaquer d'arrache-pied à ce problème. C'est comment on gère la transition énergétique, comment on planifie cette transformation, plutôt que de venir faire une réforme dogmatique néolibérale sur les retraites qui ne sert à rien et pour lesquelles encore 70% de nos concitoyens ils sont opposés et seront mobilisés demain mardi et samedi.
Alors, il y a 30% de Français aussi qui sont favorables.
Dont beaucoup de retraités, oui.
Il y a un de nos auditeurs au 39-21, le standard européen, Michel, qui nous appelle. Lui, il est restaurateur. Il a certes 60 ans, mais il n'est pas à la retraite. Et lui, il y est plutôt favorable. Bonsoir, Michel.
Oui, bonsoir.
Alors, expliquez-nous votre point de vue.
Alors, en effet, je suis favorable à cette réforme, parce qu'il faut la faire, ils ont le courage de la faire. Mais si on me pose la question, évidemment, je souhaiterais qu'on aille tous à la retraite à 55 ans. Moi, je pense un petit peu, il ne faut pas penser égoïstement, il faut penser à ces générations qui arrivent, qu'il faut leur assurer quand même le travail, il faut leur assurer que le jour où ils passeront à la retraite, ils auront un minimum pour vivre. Parce que ce qu'on oublie dans cette réforme, c'est qu'en même temps, il va y avoir le niveau qui va augmenter pour ceux qui vont toucher des retraites. Quand je vois, moi, des agriculteurs, des gens qui ont travaillé toute leur vie, toucher 300 euros, 500 euros, 700 euros, voilà, ça, c'est pas normal. Ça, c'est pas du tout normal. Voilà. Alors, j'ai dit, ce gouvernement, c'est pas populaire. Ils ont le courage de le faire. Là, j'avoue qu'il y a quand même... Mais il y a quand même des réajustements à faire, comme a dit votre la dame qui parle en même temps que...
Anne-Laure
Blin, qui dit qu'effectivement, il y a des ajustements. Et le gouvernement, je pense, doit se laisser une marge de manœuvre pour essayer de revenir là-dessus. Et voilà, après tout ce qui est référendum, tout ça, évidemment. Si vous parlez de la NUP, pour moi, c'est la révolte. On finira au Venezuela avec eux. C'est pas... Moi, tous ces gens-là, ils n'ont aucune notion de... Ils n'ont pas de responsabilité. Comme, voilà, c'est tout. Il faut rester logique. Et dans notre métier, on a besoin... d'anciens, et effectivement, il y aurait par exemple ajusté à faire comme on voit un petit peu en Espagne, que les anciens accompagnent les jeunes et équilibrer un peu leur fin de carrière à ces anciens en travaillant un petit peu moins, mais en étant disponible pour aider toute cette jeunesse.
Alors, merci beaucoup, Michel, d'aborder la question des seniors, puisque la première ministre, Elisabeth Borne, a fait des concessions sur le sujet également. Je vous pose la question à Anne-Laure Blin. Imposer l'index progressivement, y compris aux sociétés de plus de 50 salariés, ça va également dans le bon sens, selon vous ?
Non, mais je remercie votre auditeur déjà, parce que voilà ce pour qui, enfin pour non, qui nous nous battons. Non, mais pas parce que il était pas d'accord avec certains éléments, mais surtout parce que voilà, nous on est aux côtés de la France qui travaille, et quand on est restaurateur, eh ben voilà, on sait ce que c'est que travailler. Aujourd'hui, moi, j'entends le discours de la gauche et de l'extrême gauche, des syndicats, etc. Mais l'argent magique n'existe pas. Il faudrait toujours distribuer de l'argent, sauf que l'argent, il est créé par la force du travail de tous ceux qui osent entreprendre en France, comme votre restaurateur. Et c'est pour eux qu'on se bat.
Alors, bien, toutes les petites concessions que vous demandez au gouvernement, elles ont un coût aussi. Hein. Je crois que,
par exemple, sur les carrières longues,
c'est entre 600 millions et 1 milliard d'euros. Hein.
Exactement, elles ont un coût, bien sûr, mais un coût mesuré, un coût pour arriver à une réforme qui soit plus juste et plus équitable. Votre auditeur parlait notamment des petites retraites. Personne ne peut comprendre qu'aujourd'hui un agriculteur ou une personne qui s'est mise à son compte, ou même une profession libérale ou encore une mère de famille, ait un minimum contributif autour de 700 euros pour une carrière complète. Nous, ce que nous avons demandé, c'est qu'il y ait un minimum de 1200 euros, c'est la moindre des choses, pour des gens qui ont travaillé toute leur vie, qui ont fait cet effort et qui ont ce mérite d'avoir travaillé toute leur vie. Donc oui, bien sûr, ça a un coût, mais ça a un coût aussi parce qu'on demande des efforts et qu'effectivement, le travail permettra de payer ces mesures.
Ah, là aussi, c'est une concession du gouvernement, parce que LR avait demandé à ce que la retraite minimale à 1200 euros soit accordée aux futurs.
Exactement, c'est une concession du gouvernement.
Voilà.
Donc, comme vous avez parfaitement raison,
comme le dit le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, ce matin sur France Inter, LR n'a plus aucune raison de ne pas voter cette réforme des retraites.
Non, nous avons encore des éléments à faire évoluer.
Oui, alors sur l'emploi des seniors, nous, on est très favorable à augmenter l'emploi des seniors, mais par des mesures qui vont se traduire par une vraie augmentation de l'emploi des seniors dans la tranche d'âge 58 à 63 ans. C'est-à-dire, si on augmente très significativement l'emploi des seniors dans la tranche d'âge qui correspond aux conditions d'âge de départ à la retraite actuelle, on ramènerait plus de 50 milliards d'euros sur les 10 ans qui viennent dans nos régimes de retraite, si vous voulez. Donc, si vous prenez des hypothèses d'espérance de vie réaliste et des mesures d'emploi des seniors, mais qui vont devoir être un peu contraignantes et qui vont devoir typiquement résulter de la conditionnalité de certaines aides, eh bien là, vous n'avez absolument pas de problème de financement des retraites. Si vous augmentez le retour du partage de la valeur en faveur des salariés, le système est même excédentaire et permet de financer des mesures de solidarité comme l'augmentation des petites pensions. Donc, si vous voulez, il n'y a pas de problème. Nous, on sait faire la démonstration chiffrée que cette réforme est un non-sens.
Anne Lorblin, allez-y, vous pouvez répondre, mais très court, parce que j'aimerais qu'on aborde la mobilisation de demain.
Sur l'index des seniors, moi, je ne suis pas favorable. Je ne suis pas favorable parce qu'on retrouve encore cette volonté du gouvernement de toujours contraindre les entreprises. Il ne faut pas contraindre les entreprises. Plus vous décalez l'âge de départ à la retraite, et là, s'il est décalé à 64 ans, plus mécaniquement, il y aura une volonté d'embauche des seniors. Donc, ça ne sert strictement à rien de les contraindre. On voit bien ce qu'ont donné les politiques de quotas, de discrimination positive, ça ne fonctionne pas. En revanche, et c'est toujours le discours de la gauche, taxer, 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 là non plus, ça ne fonctionne pas. Il faut libérer les énergies, et c'est ce que notamment on propose, et que moi j'ai proposé dans le cadre du débat. Il faut donner de l'air aux entreprises pour les laisser travailler et les laisser entreprendre. C'est ça aujourd'hui qu'il faut faire, c'est les encourager et non les brider à chaque fois.
J'aimerais qu'on évoque maintenant la mobilisation de demain avec Gérard Mardinet de la CFE-CGC. Vous le sentez bien, pour faire simple, vous avez fait plus d'un million les 19 et 31 janvier dernier. Ça va être quoi demain?
On le sent bien, et surtout on essaye de cumuler entre ce qui va se passer demain.
J'en ai bien pensé qu'il y aura plus d'un million encore.
Écoutez, on ne sait pas compter, mais on a surtout organisé une complémentarité entre les deux journées de mobilisation de demain et de samedi pour permettre que des gens qui ont des difficultés à se mobiliser en semaine, parce qu'en particulier du fait de l'inflation, perdre une journée de salaire trois fois dans le même mois, ça commence à faire beaucoup, et bien qu'ils puissent se mobiliser samedi. Et nous, on comptera la somme des deux mobilisations. Et d'après ce qu'on entend qui nous remonte du terrain, je peux vous dire que la mobilisation va être forte, y compris demain.
Alors, vous dites que vous ne savez pas compter, mais vous sentez quand vos soutiens sont enthousiastes ou pas. Si vous sentez une baisse d'enthousiasme, qu'est-ce que vous ferez?
Non, absolument pas, parce qu'on a diffusé des éléments pédagogiques, pour le coup, nous, qui les ont convaincus qu'ils étaient en train de se faire prendre pour des idiots par le gouvernement. Et je parle vraiment en termes forts, parce qu'on n'est nullement écouté alors qu'on a des positions argumentées et qu'on sait défendre ces arguments et que personne ne veut les entendre du côté du gouvernement. On espère que du côté de la majorité et de LR, on sera quand même écouté, ou sinon ça veut dire que nos collègues ne savent pas comprendre grand-chose.
Et si malgré tout, le processus démocratique se déroule normalement, si le texte est adopté par le Parlement, qu'est-ce qu'on fait?
On verra à ce moment, mais ça sera une faillite de notre démocratie.
Laurent Berger de la CFDT a dit on respectera le processus démocratique. Attention, il pourrait y avoir des effets, en revanche, sur la prochaine élection présidentielle.
On verra le moment venu, mais nous, on espère que quand même, le bon sens va finir par l'emporter. Quand on présente des arguments étayés si vous voulez. Hein, moi, quand on a développé des systèmes aéronautiques complexes, on sait calculer. J'ai l'impression que beaucoup de députés, ils ne savent pas calculer. Eh ben, s'il faut leur apprendre à raisonner, on va leur apprendre. Hein.
Merci beaucoup Gérard Mardinet de la CFE-CGC. On verra évidemment le nombre de manifestants dans la rue demain. Merci à vous Anne-Laure Blin, députée LR du Maine-et-Loire. Dans quelques instants, vous avez rendez-vous avec Europe 1 Sport. Et surtout, un nouveau journal avec Hélène Zélani. À tout de suite sur Europe 1.
19h, 20h. Raphaël Delvolvé.